Composé d'une mosaïque de bâtiments hétéroclites, le centre hospitalier était un véritable dédale. Je m'orientais tant bien que mal parmi la multitude de panneaux. À côté du pavillon principal, édifié en pierre de taille dans les années 1930, s'agrégeaient des unités construites au fil des décennies. Chacune offrait un échantillon architectural de ce que les 50 dernières années avaient produit de meilleur et de pire. Parallélépipèdes en briques sombres, blocs en béton armé posés sur pilotis, cubes aux armatures métalliques, espaces végétalisés. Le service de cardiologie était situé dans le bâtiment le plus récent, un immeuble de forme ovoïde dont la façade mélangeait habilement le verre et le bambou. Je traversai le hall lumineux jusqu'à la banque d'accueil.
« Vous désirez, monsieur ?»
Avec sa chevelure peroxydée, sa jupe en jean effilochée, son t-shirt XXS et ses cols en léopard, la fille de l'accueil donnait l'impression que l'on avait cloné Debbie Harry. « Je voudrais voir le docteur Fanny Brahimi, la chef du service cardio. » Blondie décrocha son téléphone.
« C'est de la part de qui ?»«
Thomas de Galais. Dites-lui que c'est une urgence. » Elle me proposa de patienter dans le petit patio. J'avalai 3 verres d'eau glacée à la fontaine avant de me laisser tomber dans l'un des canapés qui flottait sur le parquet. Je fermai les yeux. Les images de mon père et de Vinca restaient incrustées sous mes paupières. Le cauchemar m'avait pris au dépourvu, complexifiant et ternissant encore un peu plus le souvenir que je gardais de Vinca. Je repensais au refrain que tout le monde me renvoyait depuis ce matin. « Tu ne connaissais pas vraiment Vinca. » Il tapait à côté. Jamais je ne prétendrais connaître vraiment quelqu'un. J'étais un adepte de l'axiome de Garcia Marquez. Tout le monde a 3 vies. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Mais chez Vinca, je ne pouvais que constater que cette 3e vie s'étendait sur un territoire insoupçonné. Je n'étais pas naïf. J'avais bien conscience que je conservais dans mon cœur une image construite dans la ferveur amoureuse de mon adolescence. Je savais très bien que cette image répondait à mon aspiration d'alors, celle de vivre un amour pur avec une héroïne romantique, échappée du Grand Maulne ou des Hauts de Hurlevent. J'avais inventé une Vinca telle que j'aurais voulu qu'elle soit, et non pas telle qu'elle était vraiment. J'avais projeté sur elle des choses qui n'existaient que dans mon imagination. Mais je ne pouvais me résoudre à admettre que j'avais eu faux sur toute la ligne.
« Merde, j'ai oublié mes clopes. Tu veux bien aller chercher mon sac dans mon casier ?»
La voix de Fanny me sortit de mes ruminations. Elle envoya un trousseau de clés en direction de Debbie, qui l'attrapa à la volée.
« Alors, Thomas, on ne s'est pas adressé la parole pendant des années, et d'un seul coup, tu peux plus te passer de moi ?»
me lança-t-elle en se dirigeant vers le distributeur de boissons. C'était la première fois que je voyais Fanny dans son rôle de médecin. Elle portait un pantalon de coton bleu pâle, une chasuble à manches longues de la même couleur et une coiffe en papier qui retenait ses cheveux. Son visage était nettement plus dur que ce matin. Derrière ses mèches blondes, son regard clair brillait d'une flamme sombre et impétueuse. Une vraie guerrière de lumière, en lutte contre la maladie. Qui était Fanny ? Une alliée ou la main droite du diable ? Et si finalement Vinca n'était pas la seule personne de mon passé sur qui j'avais porté un jugement erroné ? « Il faut que je te montre quelque chose, Fanny. J'ai pas beaucoup de temps. » Elle mit des pièces dans la machine. À fleur de peau, elle rudoya le distributeur parce que le Perrier qu'elle avait sélectionné ne descendait pas assez vite. D'un geste de la main, elle m'incita à la suivre dehors sur le parking du personnel. Là, elle libéra ses cheveux, retira sa blouse et s'assit sur le capot de ce qui devait être sa voiture. Une Dodge Charger sanguine qu'on aurait cru sortie d'un vieil album de Clapton ou de Springsteen. « Quelqu'un a laissé ça sur mon pare-brise, » dis-je en lui tendant l'enveloppe Kraft. « C'est toi ?» Fanny secoua la tête, prit la pochette, la soupesa, sans paraître pressée de l'ouvrir, comme si elle savait déjà ce qu'elle contenait. Une minute auparavant, son regard tirait sur le verre. Là, il était gris et triste. « Fanny, dis-moi si c'est toi qui as pris ces photos. » Brusquée par ma question, elle se résigna à sortir les clichés de leur étui cartonné. Elle baissa les yeux, jeta un œil aux 2 premières images et me rendit l'enveloppe.
« Tu sais ce que tu devrais faire, Thomas ? Prendre un avion et repartir à New York.
Ne compte pas trop là-dessus.
C'est toi qui as pris ces photos, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Il y a 25 ans.
Pourquoi ?
Parce parce que Vinka me l'avait demandé. Elle remonta la bretelle de son débardeur et se frotta les yeux avec son avant-bras.
« Je sais que c'est loin, tout ça, »
soupira-t-elle.
« Mais tes souvenirs de cette période ne correspondent pas aux miens.
Où veux-tu en venir ?
Admets la vérité, Thomas. À la fin de l'année 1992, Vinka avait disjoncté.
Elle était incontrôlable, complètement en roue libre. Souviens-toi, c'était le début des rêves partis, la dope était partout dans le lycée.
Et Vinka n'était pas la dernière à se défoncer.
Je me souvenais en effet des calmants, des somnifères, de l'exta et de la benzédrine que j'avais vue dans sa boîte à pharmacie. Un soir, en octobre ou novembre, Vinka a débarqué dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle couchait avec ton père et m'a demandé de les suivre pour prendre des photos. Elle...
Les pas de la standardiste l'interrompirent dans sa confession.
« Voilà ton sac, docteur !»
lança Debbie.
Fanny la remercia. Elle prit son paquet de clopes et son briquet et posa le sac à côté d'elle sur le capot. Un modèle en cuir tressé, blanc et neige, avec un fermoir en forme de tête de serpent, dont le regard d'Onyx semblait porteur d'une noire menace. Quel usage Vinka voulait-elle faire de ses photos ? Elle alluma sa cigarette en haussant les épaules.
« J'imagine qu'elle voulait faire chanter ton père.
Tu as parlé de ça avec lui ?
Pas encore. »
Je sentis la colère et la déception qui montaient en moi.
« Comment as-tu pu cautionner ça, Fanny ?»
Elle secoua la tête et inhala une bouffée de tabac. Son regard se voila. Elle plissa les yeux, comme pour retenir ses larmes. Mais je ne la lâchai pas.
« Pourquoi m'as-tu fait ça ?»
J'avais crié, mais elle cria plus fort que moi, sautant du capot pour me défier.
« Mais bordel, parce que je t'aimais !»
Son sac était tombé par terre. Les yeux rougis par la colère, Fanny me bouscula.
« Je t'ai toujours aimé, Thomas, toujours. Et toi aussi, tu m'aimais, avant que Vinka ne vienne tout bousiller !»
Furieuse, elle me donnait des coups dans la poitrine.
« T'as tout abdiqué pour elle. Pour lui plaire, t'as renoncé à tout ce qui constituait ta singularité, tout ce qui faisait que t'étais un garçon différent des autres. »
C'était la première fois que je voyais Fanny perdre le contrôle. Était-ce parce que je savais qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'elle disait, que j'encaissais les coups comme une punition ? Lorsque j'estimais que la pénitence avait assez duré, je la pris doucement par les poignets.
« Calme-toi, Fanny. »
Elle se dégagea et plongea la tête entre ses mains. Abattue, je la vis vaciller sur ses jambes.
« J'ai accepté de faire les photos parce que je voulais te les montrer pour discréditer Vinka à tes yeux. »
Pourquoi y as-tu renoncé ?
Parce qu'à l'époque, ça t'aurait brisé. Je craignais que tu fasses une connerie par rapport à toi, à elle ou à ton père. J'ai pas voulu courir ce risque.
Elle s'adossa contre la portière de la voiture. Je me baissai pour ramasser son sac en évitant de me faire mordre par le serpent. Il était resté ouvert et des objets s'étaient éparpillés sur le sol. Un agenda, un trousseau de clés, un tube de rouge à lèvres. Alors que je remettais les objets dans le sac, mes yeux tombèrent sur un papier plié en deux, la photocopie du même article de Nice Matin que m'avait fait parvenir Maxime. Il était barré des mêmes lettres qui réclamaient vengeance.
« Fanny, qu'est-ce que c'est ? »
demandai-je en me relevant. Elle me prit le papier des mains.
« Un courrier anonyme. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. »
Tout à coup, l'air se densifia, comme s'il se chargeait d'ondes négatives. Et je pris conscience que le danger qui nous menaçait, Maxime et moi, était encore plus sournois que prévu.
« Tu sais pourquoi tu as reçu ça ?»
Fanny était à bout de force, affaissée, proche de la rupture. Je ne comprenais pas pourquoi elle était visée par ce courrier. Elle n'avait rien à voir avec la mort d'Alexis Clément. Pourquoi celui qui nous traquait, Maxime et moi, s'en prenait-il aussi à elle ? Sans la brusquer, je lui posai la main sur l'épaule. « Fanny, réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu sais pourquoi tu as reçu cette lettre de menace ?» Elle leva la tête et j'aperçus son visage défait, chiffonné, livide. Un incendie s'était allumé au fond de ses pupilles.
« Putain, bien sûr que je le sais !»
me rétorqua-t-elle. « À présent, c'est moi qui perds pied. »
« Et pourquoi ?»« Parce qu'il y a un cadavre. »
dans le mur du gymnase.
4. Pendant un long moment, je fus incapable d'articuler le moindre mot. La situation venait de m'échapper. J'étais tétanisé. Depuis quand es-tu au courant ? Elle était KO debout, comme si elle avait renoncé à lutter et s'était abandonnée à la noyade. Lasse, elle parvint à murmurer.
Depuis le premier jour.
Puis elle s'effondra, littéralement. Elle se laissa glisser le long de la voiture pour s'écrouler en pleurs sur le goudron. Je me précipitai pour l'aider à se redresser.
Tu n'as rien à voir avec la mort de Clément, Fanny.
C'est moi et Maxime qui en sommes responsables.
Un instant, elle releva les yeux vers moi, à garde. Puis, de nouveau secouée de sanglots, elle s'assit à même le sol et enfouit son visage entre ses mains. À mon tour, je m'accroupis à côté d'elle et j'attendis qu'elle sèche ses larmes en regardant nos deux ombres immenses que le soleil projetait sur le bitume. Enfin, elle s'essuya les paupières du dos de la main.
« Comment ça s'est passé ? » demanda-t-elle. « Comment est-il mort ?»
Au point où nous en étions, je lui racontai tout en détail, l'affranchissant de notre terrible secret. À nouveau, je revécus le traumatisme de cet épisode qui, pour l'éternité, m'avait transformé en meurtrier. Lorsque j'eus terminé, elle paraissait avoir retrouvé un semblant de calme. Cette confession nous avait mutuellement apaisés. « Et toi, Fanny, comment étais-tu au courant ?» Elle se releva, respira profondément et alluma une autre cigarette sur laquelle elle tira plusieurs bouffées, comme si le tabac permettait de convoquer les souvenirs lointains.
Le jour de la tempête de neige, ce fameux samedi, le 19 décembre, j'avais travaillé très tard. À l'époque où je préparais médecine, j'avais pris l'habitude de ne dormir que 4 heures par nuit. Je crois que ça me rendait folle. Surtout lorsque j'avais pas un rond devant moi pour m'acheter à manger. Cette nuit-là, j'avais tellement faim que je parvenais pas à trouver le sommeil. 3 semaines plus tôt, Madame Fabianski, la femme du gardien, avait eu pitié de moi et m'avait donné un double des clés de la cuisine du réfectoire.
Le bip de Fanny sonna dans sa poche, mais elle fit mine de ne pas l'entendre.
Je suis sorti dans la nuit. Il était 3 heures du matin. J'ai traversé le campus jusqu'à la cantine. À cette heure-ci, tout était fermé, mais je connaissais le code de la porte coupe-feu qui permettait de pénétrer dans le réfectoire. Il faisait un tel froid que je ne me suis pas attardé. J'ai dévoré sur place une boîte de biscuits, puis j'ai emporté la moitié d'un paquet de pain de mie et une tablette de chocolat.
Elle parlait d'un ton monocorde, comme si elle était dans un état proche de l'hypnose et que quelqu'un d'autre s'exprimait à travers elle.
Ce n'est qu'en regardant la résidence que j'ai véritablement pris conscience de la splendeur du paysage. Il ne neigeait plus. Le vent avait chassé les nuages, dévoilant des constellations et une lune pleine. Tout était tellement féerique que je suis revenu sans quitter le lac des yeux. Je me souviens encore du crissement de mes pas sur la neige et du reflet bleu de la lune à la surface de l'eau.
Ces paroles ravivaient mes propres souvenirs de la Côte d'Azur, figée dans la glace. Fanny continua.
Le charme s'est rompu lorsque j'ai aperçu une lumière inhabituelle au-dessus de moi. La lueur venait de la zone sur laquelle on construisait le gymnase. Plus je m'approchais, plus je comprenais que ce n'était pas une simple lueur. C'était le chantier dans son ensemble qui était éclairé. Il y avait même un bruit de moteur, le vrombissement d'une machine. Une intuition me disait de ne pas m'approcher, mais j'ai cédé à la curiosité et...
Qu'est-ce que tu as découvert ?
J'ai vu une bétonnière qui tournait dans la nuit. J'étais abasourdi. Quelqu'un coulait du béton à 3 heures du matin dans un froid insoutenable. Une présence m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai aperçu Ahmed Ghazouani, l'ouvrier de Francis Biancardini. Il m'a regardé, presque aussi terrifié que moi. J'ai hurlé, puis j'ai pris les jambes à mon cou pour me réfugier dans ma chambre. Mais j'ai toujours su que ce soir-là, j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Comment as-tu deviné qu'Ahmed était en train d'emmurer le cadavre d'Alexis Clément? Je ne l'ai pas deviné. C'est Ahmed lui-même qui me l'a avoué. Presque 25 ans plus tard. À quelle occasion? Fanny se retourna pour désigner le bâtiment derrière elle. L'année dernière, il était hospitalisé ici, au 3e étage, pour un cancer de l'estomac. C'était pas directement mon patient, mais parfois, le soir, je passais le voir avant de partir. En 1979, mon père avait travaillé avec lui sur le chantier du port de commerce de Nice, et ils avaient gardé des liens. Ahmed savait que sa maladie était très avancée. Avant de mourir, il a voulu alléger sa conscience, et c'est comme ça qu'il m'a tout raconté. Exactement comme tu viens de le faire. Mon inquiétude était à son comble. S'il te l'a dit à toi, il l'a peut-être dit à quelqu'un d'autre. Tu te souviens de qui lui rendait visite? Personne, justement. Personne ne lui rendait visite, et il s'en plaignait. Il n'avait qu'une envie, rentrer dans la région de Bizerte. Je me rappelais ce que m'avait dit Maxime. Ahmed était mort chez lui. C'est ce qu'il a fait, devinai-je. Il a quitté l'hôpital pour repartir en Tunisie, où il est décédé quelques semaines plus tard. À nouveau, le bip de Fanny résonna sur le parking désert. Cette fois, il faut vraiment que je retourne au boulot. Bien sûr, vas-y. Tiens-moi au courant lorsque tu auras parlé à ton père. J'acquiesçai de la tête et je me dirigeai vers l'espace de stationnement réservé aux visiteurs. En regagnant la voiture, je ne pus m'empêcher de me retourner. J'avais parcouru 20 mètres, mais Fanny n'avait pas bougé et me regardait fixement. En contre-jour, ses mèches blondes étincelaient, comme les filaments d'une lampe magique. On ne distinguait pas ses traits, elle aurait pu avoir n'importe quel âge. Pendant quelques secondes, dans mon esprit, elle fut encore la Fanny de l'été du Grand Bleu, et je redevins moi aussi ce garçon différent des autres. La seule version de Thomas de Galais que j'avais aimé dans ma vie.